Voici le journal de Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour, l'Italie resserre encore la vis. Toute production non vitale désormais stoppée. Le pays englouti par la vague virale. 800 morts en 24 heures. Nous serons à Milan, ville déserte. En France, alerte en Ile-de-France. Déjà 600 malades en soins intensifs. Une seule mesure valable. Strict confinement. Vous entendrez le directeur de l'Agence régionale de santé. Restez chez vous. Message désormais diffusé par drone. Nous irons dans la Nièvre. Nous ferons le point sur la situation des Français bloqués à l'étranger. Ils sont quelques 130 000. Et puis quand la solidarité nous permet de supporter la crise, les gestes se multiplient dans le monde du sport.
Les invités de la matinale, Patricia Martin, à 8h10, vous recevrez
Véronique Feillet, qui est présidente du Secours catholique et qui débloque de l'argent et qui a bien besoin également d'une autre.
Rendez-vous avec Véronique Feillet à 8h10 et à partir de 8h20. Question ce matin à l'anthropologue Frédéric Keck. Il est auteur d'un livre qui tombe à pic, Les Sentinelles des pandémies. Eh bien, posez-lui vos questions sur l'histoire des pandémies et les différentes façons de les combattre. C'est au 01 45 24 7000.
France Inter.
L'Italie prend donc de nouvelles mesures exceptionnelles contre le coronavirus.
Allocution solennelle du président du Conseil italien Giuseppe Conte. Toutes les entreprises non essentielles à l'approvisionnement du pays doivent cesser toute production jusqu'au 3 avril. L'Italie, pays le plus touché au monde, près de 5000 morts et un virus qui ne faiblit pas. 800 morts dans la seule journée d'hier. Hausse exponentielle malgré un confinement de 15 jours déjà. Région la plus touchée, la Lombardie. Milan, où s'est rendu notre envoyé spécial Omar Waman, est une ville déserte.
C'est une atmosphère étrange qui règne sur la célèbre place du Duomo, en plein cœur de Milan.
C'est comme un décor de cinéma, ça semble irréel.
Nadia, une rare passante, sortie promener son chien.
Buona giornata.
Déserte également la magnifique galerie Vittorio Emmanuel II. Seule la boutique de téléphonie mobile tenue par Andrea est ouverte.
Ils ont enfin compris qu'ils devaient rester chez eux. Il a fallu un mois pour faire le vide.
Grazie a voi.
Claudio, agent immobilier, se félicite également.
La ville est très disciplinée. Très disciplinée. Il n'y a personne, vous voyez. Personne.
Il n'y a pas d'alternative, je crois.
Mais si le centre de Milan est désert, ce n'est pas le cas du reste de la ville. Plus clairsemé, notamment aux abords de la gare où vit le docteur Michele Bonacorso, réanimateur à l'hôpital San Giuseppe.
Purtroppo, quindi si vede gente qui per strada.
Malheureusement, on voit encore des gens dans la rue.
E questa è una irresponsabilità.
C'est totalement irresponsable de leur part.
Noi purtroppo
nous ne sommes pas disciplinés comme les Chinois et nous le payons.
E la paghiamo.
Résultat, nous avons plus de morts qu'en Chine.
L'exemple de Wuhan en Chine, où l'épidémie a été contenue au prix d'un bouclage drastique, est un espoir pour l'Organisation mondiale de la santé, selon laquelle la situation la plus grave peut être réversible. Milan, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Autre pays européen où le nombre de décès augmente chaque jour, l'Espagne, où les soins intensifs sont maintenant débordés. En Afrique, plusieurs pays prennent à leur tour des décisions draconiennes. Rwanda, Tunisie, avec confinement total et frontières fermées.
Et en France, la vague monte toujours.
112 morts de plus en une seule journée hier. 562 décès désormais en France depuis le début de l'épidémie. 6000 personnes sont hospitalisées, dont 1525 en réanimation. Région la plus touchée, l'Île-de-France, le directeur de l'Agence régionale de santé, Aurélien Rousseau, alerte.
Aujourd'hui, en Île-de-France, on a plus de 600 patients qui sont en réanimation. Deux tiers d'entre eux sont intubés ventilés, ce sont des cas lourds. La moitié des patients a moins de 60 ans. Je voudrais simplement redire que quand on fait nos projections, il y a une donnée qui fait varier en positif ou en négatif, c'est les résultats du confinement. Parce que si les gens respectent et vont encore plus loin dans le confinement, on ralentit la progression du virus. Et ralentir la progression du virus, ça permet de dégager la pression à un moment donné sur le système de santé. C'est donc un acte très simple. Il y a des gens tous les soirs qui applaudissent les soignants. On peut applaudir. Et en restant chez soi, c'est aussi un acte concret, utile, directement utile pour protéger le système de santé.
Voilà donc l'alerte du directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France.
Et en cas de confinement non respecté, la sanction pourrait aller jusqu'à la prison.
Les députés ont voté hier soir. L'état d'urgence sanitaire durcit donc très nettement les sanctions envers ceux qui ne respectent pas ce confinement. Première amende 135 euros, récidive dans les 15 jours 1500 euros. 4 sorties non justifiées, on passe à 3 750 euros et jusqu'à 6 mois de prison. En effet, application demain lundi. Dans le ciel, les drones, de plus en plus utilisés, dans un premier temps pour faire passer le message, explique le colonel Baudou. Il commande le groupement de gendarmerie de la Nièvre.
Alors ce matin, le contrôle qui est opéré est fait sur le marché de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire. Il est fait avec des patrouilles de gendarmerie à pied, mais également une équipe de télépilotes drones qui utilisent le drone pendant ce marché pour faire des diffusions de messages de prévention. Et grâce aux haut-parleurs du drone, on diffuse, on rappelle la stricte nécessité des mesures barrières, rester à distance de plus d'un mètre les uns des autres, se relaver et désinfecter les mains après chaque contact avec le commerçant. Et puis le drone, il sert aussi à surveiller des terrains de jeu, des terrains de foot, des zones un petit peu écartées où on sait qu'on a notamment des jeunes qui peuvent se rassembler. Donc le drone est utilisé vraiment de manière à la fois préventive pour faire ces messages, mais également pour faire de la surveillance générale et veiller à ce qu'on n'ait pas des regroupements, notamment pour les plus jeunes qui ont un peu de mal à rester chez eux dans cette période-là. Donc on l'utilise pour vraiment faire respecter ces mesures de confinement.
Autre mesure, le couvre-feu après Nice, les maires de Béziers, Perpignan, Menton ont pris des arrêtés en ce sens. D'autre part, le Conseil d'État examine ce matin le recours déposé par 2 syndicats de médecins qui demandent un confinement plus strict et plus long. La situation des Français bloqués à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères en a compté 130 000. Maroc, Madagascar, Canaries, partout des mesures de confinement sont décidées. Les touristes pris au piège, hôtels qui ferment, vols retour annulés. Et pour trouver un avion, il faut payer un prix exorbitant. La panique commence à gagner, Nathanaël Charbonnier.
Sur le papier, c'est simple, le Quai d'Orsay travaille pour rapatrier nos compatriotes partout dans le monde. Mais dans la réalité, il est souvent difficile d'avoir des informations des ambassades. Frédéric est au Pérou avec une partie de sa famille et elle galère.
On a la tourista, on n'a pas de médicaments, on n'est pas bien, quoi. Ensuite, on a très peu d'informations au niveau de l'ambassade. C'est souvent des gens qui sont au Pérou qui doivent indiquer à l'ambassade, par exemple, les vols qui sont prévus ou pas. On a un petit enfant, qui a 3 ans. C'est super dur. Hein.
Sur le papier, c'est simple. Air France jure que pour rentrer, le prix des billets moyens courriers ne peut dépasser 250 euros. Et les longs courriers, 600 euros. Mais voilà, dans la réalité, c'est pas toujours aussi évident. Comme l'explique Benoît, qui a mis du temps pour quitter la Colombie.
J'avais fait une alerte de Google Flight qui me disait « Votre vol, il est à 1 400 000. » Donc ça représente 320 euros. Ce même vol-là, je l'ai retrouvé à 2500 euros. Le mardi, donc il a été multiplié par 3, 4, 5, 6.
Difficile de trouver des avions, difficile de joindre les autorités, le Quai d'Orsay explique que la situation est exceptionnelle. Il renvoie sur les sites internet des ambassades dans chaque pays et rappelle l'importance de s'inscrire sur le site Ariane, qui sert à répertorier les Français encore disséminés dans le monde.
Cette crise révèle le moins bon, mais aussi le meilleur de l'être humain, la solidarité. On la voit ainsi dans un domaine qui n'est pas réputé pour, le football. Clubs et supporters de Ligue 1 multiplient les gestes, Cédric Guillou.
L'Olympique lyonnais, par l'intermédiaire de sa fondation, vient notamment de débloquer 300 000 euros pour la lutte contre le coronavirus. 100 000 pour aider la recherche et 200 000 euros pour répondre aux besoins d'urgence des hôpitaux sur l'ensemble du territoire. Le club lyonnais a également lancé une plateforme de financement participatif. Maëlle Trarieux est la déléguée générale d'OL Fondation.
On s'est dit pourquoi pas non seulement nous-mêmes donner, mais aussi permettre à notre communauté de venir appuyer, renforcer cette solidarité tous ensemble.
Les initiatives se multiplient également chez certains groupes de supporters des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont mis en place des cagnottes en ligne pour soutenir les soignants des hôpitaux. Une levée de fonds solidaire lancée à Toulouse, notamment Alexandre Roux et le président des Indians Tolosa.
Le but, c'est d'acheter du café, des gâteaux, des goûters pour que les personnes, les soignants les retrouvent dans leur salle de pause. C'est histoire de leur faire plaisir à eux qui luttent contre cette maladie.
Certains clubs de supporters n'hésitent pas non plus à déployer des banderoles de soutien au personnel hospitalier. À Paris, notamment, les ultras du Paris Saint-Germain en ont déposé une devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Solidarité, il y a aussi, on le sait, ces applaudissements chaque soir à 20h pour les soignants, mais aussi pour tous ceux qui restent debout dans la tempête et qui font vivre malgré tout le pays.
Allez, faisons du bruit aux fenêtres à 20h, vous avez bien raison. C'était le journal de Bernadette Chamonaz.